www.libradio.org. La station debout.
Nous sommes le vendredi 7 février, ici à Genève, dans la cour de l'écurie. Et voilà, nous souhaitions questionner et surtout prendre la température des personnes qui sont à la commune internationaliste au Rojava. Le Rojava, ça se situe donc au nord-est de la Syrie. Et il s'y trouve cette commune internationaliste depuis un certain moment. Zana, bonjour à toi.
Bonjour.
Merci de prendre.
Comment allez-vous?
Ça va super. Et toi? C'est à toi qu'il faut qu'on demande ça. Comment vas-tu?
Quand nous sommes dans une terre de révolution, on peut aller que bien.
tout à fait. Alors, on va y venir. Voudrais-tu peut-être, pour commencer, on va poser quelques jalons, nous indiquer, voilà, où est-ce que vous vous trouvez? Vous êtes aux alentours de la ville de Derik.
C'est exact.
Voudrais-tu nous décrire un petit peu, le relief autour de toi, comment c'est, à quoi ça ressemble?
En fait, c'est une surface assez plate. Il y a beaucoup de champs. On voit les montagnes turques, la frontière turque est à moins de 5 km. Et en fait, après la frontière turque, les montagnes commencent. Et sinon, sur notre côté droite, nous avons les montagnes irakiennes. Et nous sommes vraiment, en fait, dans la plaine qui est avant ces montagnes. Il y a des énormes étendues de champs. Il y a une petite rivière juste à côté de nous. Et c'est jonché de petites communes, de petites collines, je veux dire. Et c'est assez idyllique, en fait. Maintenant, il fait nuit, mais les couchers de soleil sont vraiment magnifiques.
En termes d'infrastructure, voudrais-tu là aussi nous décrire un petit peu ce qui t'entoure?
Nous sommes en fait un peu en dehors de la ville. Différentes petits villages qui longent en fait une route. Et après, il y a des plus petits villages qui sont un peu éparpillés dans cette énorme plaine. C'est des villages à peu près d'une quinzaine de maisons. Et sinon, au loin, nous voyons la ville de Derik, qui est une ville quand même assez importante. Je n'arriverai pas à vous donner le nombre de temps, mais ça peut être une ville qui peut regrouper entre 20 000 et 100 000 personnes.
D'accord. À quoi ressemble-t-elle, justement, cette ville de Derik, actuellement?
En fait, c'est une ville qui a été épargnée par la guerre. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Après, ce n'est pas des bâtiments très hauts, c'est des bâtiments à peu près de 2-3 étages maximum. On a un centre qui... On appelle Souk. Il y a plusieurs magasins, des petits commerces, la vie se développe et c'est assez sympathique. Après, il y a différents quartiers. Il y a, par exemple, c'est une ville avec une forte communauté chrétienne, donc il y a 2-3 quartiers chrétiens. Après, il y a des quartiers un peu plus... il y a des quartiers où, avec la population arabe qui sont un peu moins riches. Après, il y a des quartiers arabes qui sont un peu plus riches. Donc, il y a vraiment une diversité... culturelle et ethnique dans cette ville qui est assez incroyable. Il y a 7 églises chrétiennes et il doit y avoir aussi une dizaine de mosquées. Il y a quelques minarets qui sortent un peu de la base, qui sont un peu plus hauts, et quelques clochers qui jonchent la ville.
Est-ce que la cohabitation, comment se passe-t-elle, cette cohabitation-là? Y a-t-il également des moments de friction où l'apaisement règne-t-il? Premier volet de la question. Et le deuxième volet, c'est de quoi est fait le quotidien des personnes à Derik, et ensuite on en viendra à la commune. Mais est-ce que, voilà, tu l'as dit, elle a été, si j'ai bien compris, relativement épargnée. Nous sommes tout de même dans cette zone tampon que la Turquie a envahie. J'imagine qu'il y a tout de même une tension qui est là et peut-être des peurs qui peuvent surgir.
La Turquie a envahi une partie du Rojava, mais en fait pas la partie de Derik. Nous sommes encore administré par l'administration du nord-est de la Syrie. Et en fait, les tensions, il y en a... En tout cas, pour ma part, j'en ai vu aucune, parce que c'est une ville où il y a une espèce de... un accord tacite entre les gens. C'est une ville où il se passe plus ou moins... Il n'y a pas de conflit ouvert, les gens commercent, les gens échangent dans la rue, il y a beaucoup d'activités, il y a des événements culturels, il y a des manifestations en soutien aux différents événements qui ont lieu dans cette ville, mais il n'y a pas de tension criante. Après, c'est un pays en guerre, donc il y a des checkpoints sur les routes, il y a des contrôles de sécurité, il y a ce genre de choses. Les premiers jours, c'est quelque chose qui nous surprend quand on arrive de l'Europe, c'est quelque chose qu'on a moins l'habitude de voir, mais après, on s'y fait, et puis la vie, en fait, continue, même si c'est une période de guerre. les gens restent, jusqu'à ce qu'on se fasse bombarder, les gens restent dans les villes et c'est vraiment trop dangereux et les gens partent. Mais avant que le public n'ait plus présent, les gens restent et continuent à vivre. Et on va pas laisser, en fait, on va d'abandonner les villes et d'abandonner le pays, ce serait donner le pays aux Turcs. Et les gens sont ici pour défendre la révolution aussi et ils sont activement part de la société.
Et dis-moi, toi, Zana, depuis quand es-tu sur place et pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à quitter le lieu où tu étais avant pour te rendre justement au sein de la commune internationaliste?
Moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est que j'étais assez engagé en Europe dans les luttes politiques. Et le mouvement kurde m'a toujours intéressé, mais après, c'est quelque chose de très difficile à avoir du temps pour aller là-bas et vraiment venir apprendre. Mais ce qui m'a vraiment motivé, c'est de dire apprendre comment organiser concrètement la révolution et comment faire et avoir un exemple de qu'est-ce qui s'y passe, comment ils s'organisent là-bas, comment le mouvement s'est créé, l'histoire du mouvement. Et puis, si on veut vraiment apprendre sur un mouvement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est s'y rendre. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'y rendre et vraiment d'apprendre comment se passe la vie ici, comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, comment ils gèrent la société, comment la société se gère par elle-même le chaque jour. Et c'est des choses qui sont vraiment impressionnantes dès qu'on arrive sur place.
Alors, bien entendu, nous allons revenir là-dessus. Mais depuis quand es-tu sur place et est-ce que... Et est-ce que l'arrivée s'est bien passée? Est-ce que assez rapidement, tu as pu échanger? Alors, au niveau de la langue, comment ça se passe? Est-ce que tu as été accueilli et un petit peu accompagné? Voilà, explique-nous un petit peu le processus. Depuis quand es-tu là et le processus d'arrivée? Comment est-ce que ça s'est installé?
Ben alors, après, il y a des comment dire, en fait, la situation, moi, ça fait 2 mois que je suis ici. Et le problème, c'est qu'il y a un embargo, en fait, sur le nord syrien, sur le Rojava, car c'est quelque chose qui effraie toutes les puissances aux alentours. Donc, c'est très difficile de passer la frontière. Mais pour vous dire, l'internationalisme ne connaît pas de frontières. Mmh. Et l'internationalisme se fie de toutes leurs lois. Mais après, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas trop vous en parler. Mais non, on a pu... bien sûr, on a été pris en charge et les choses se sont très bien passées. Et nous sommes arrivés à la commune internationale. Et après, de la commune internationale, nous avons beaucoup de liens avec la société locale, comme on pourrait dire en termes occidentaux. Mais nous sommes vraiment connectés avec les gens et nous faisons des activités en fait, dans la ville. Nous allons faire des activités avec les organisations de jeunesse, avec les organisations des femmes. Il y a différentes activités qui sont possibles au niveau de la culturelle aussi. Et après, la langue, c'est quelque chose de très compliqué. Je vous avoue que je ne suis pas très bon là-dedans. Donc, pour l'instant, je suis plus mes camarades et nous sommes en train d'apprendre kurde. Nous avons des cours de kurde le matin et le soir. Collectivement, en fait, nous apprenons ensemble le kurde 1 heure le matin et 1 heure le soir.
Mmh. D'accord. Alors, on l'a dit, le Rojava, c'est synonyme de révolution féministe, écologiste, sociale. C'est là le synonyme de confédéralisme démocratique. Ça, ce sont des valeurs qui t'habitaient déjà et que tu as voulu, mettre en pratique d'une certaine manière, ou en tout cas, être en immersion complète.
Alors, moi, j'étais assez engagé assez vite. J'ai commencé mon parcours par l'antifascisme. Après, j'ai eu aussi un grand intérêt pour l'écologie, qui s'est suivi par un intérêt pour le mouvement féministe. Et c'était quand même une. Et après, tout ça, en fait, est lié pour moi. Et toutes ces luttes ne sont pas que individuelles, mais elles ont un ciment, en fait, collectif, et qui peut s'exprimer par ces idées de démocratie et de confédéralisme. Et l'objectif, c'est vraiment de voir comment en fait ces choses peuvent s'articuler et comment en fait concrètement elles s'articulent ici. Et cette idée de confédéralisme et de fédéralisme s'exprime très bien ici, où nous avons en fait une gestion, on peut en parler plus tard, par canton, oui. Par commune, oui. Et par vraiment quartier. Et ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant qui se passe.
Alors effectivement, voudrais-tu, on peut y aller, on peut y aller plein pot, quoi. De quelle manière est-ce que se manifeste très concrètement au quotidien le confédéralisme démocratique, quelle est l'organisation sociale qui fait que, eh bien, on se trouve dans une horizontalité. Voilà, comment les décisions sont-elles prises? Est-ce qu'elles sont prises en commun? Est-ce qu'il y a une forme de délégation? Est-ce qu'on vote ou est-ce qu'on va plutôt au consensus? Explique-nous un petit peu tout ce processus.
Alors, premièrement, c'est un peu la structure qui est autour de ça, parce que, en fait, une démocratie, ce n'est pas juste quelque chose qu'on annonce, mais c'est quelque chose qu'on va pratiquer. Et cette pratique démocratique s'instaure au plus proche des gens, en fait. Et ce qui est important dans cette pratique démocratique, c'est vraiment l'implémentation dans les quartiers. Elle commence, chaque quartier, une ville est divisée en plusieurs quartiers. Ces quartiers regroupent environ 100 à 150 familles. Et elles ont, en fait, des réunions, je crois que c'est entre semestriel et mensuel, je crois que c'est toutes les 2-3 semaines. Et là, en fait, ils sont décidés et parlent des choses de la vie quotidienne. De ces assemblées, on va dire, de quartier, on peut aller à un niveau supérieur où c'est des, on va dire, c'est quartier après ville. Et après, mais dans les grandes villes, il y a plusieurs, on va dire, sous-districts. Et après, de ces villes, bas au niveau, on va dire, au niveau régional. Et de ce niveau régional, il y a quand même une certaine coordination au niveau fédéral. Mais en fait, après là, je vous ai montré un peu ces structures-là. Mais après, il faut comprendre que ces structures sont interdépendantes. On ne peut pas imaginer juste une décision que ça ait pris à un niveau de la ville ou juste au niveau du canton. Mais vraiment, les décisions, en fait, partent de ces assemblées démocratiques, remontent, sont traitées et reviennent, et c'est un échange permanent, en fait, entre ces différents niveaux. Et après, sur ces différents niveaux, nous avons, bien sûr, après des représentations de genre, des représentations ethniques, qui sont aussi arrangées, parce que nous ne pouvons pas juste dire c'est une démocratie, mais toutes les phases de la société doivent être représentées dans chaque instance, et même les minorités. Et ici, il y a une grande importance qui est donnée aux minorités pour pas, en fait, avoir une hégémonie, parce que dans l'histoire, on va dire de la Syrie par exemple, il y a eu cette tradition nationale, on va dire nationale sociale, qui avait cette hégémonie du peuple arabe. Et en fait, les Kurdes sont vraiment la révolte kurde, des peuples kurdes, pour essayer d'évoluer dans ce sens-là, en essayant de comprendre comment intégrer toutes les parts de la société et non pas essayer d'opprimer les minorités. Et c'est un travail de tous les jours, mais il porte ses fruits et c'est un échange qui est assez intéressant.
Dis-moi, la figure d'Abdullah Öcalan, comment est-elle présente? Voilà, on sait qu'il est depuis plus de 10 ans incarcéré en Turquie, sur une île pénitentiaire. Il est d'une certaine manière à la base de la théorie et des pratiques du confédéralisme démocratique. On sait que c'est également au travers de textes de Bookchin qu'il en est arrivé là. Il me semble que très récemment encore, il publie, mais on ne l'entend plus. J'imagine qu'il est à l'isolement et qu'il est, qu'il est rendu muet par le gouvernement turc. Son image est-elle encore très présente?
Moi, j'avais un peu de peine avec ces figures, ces grandes figures. Mm-hmm. Parce que on a vu dans l'histoire que ça portait pas toujours ses fruits. Mais en fait, c'est assez drôle parce que c'est un peu une figure qui ne parle pas et qui ne donne pas parce qu'il a seulement, comme vous l'avez dit, et il écrit des livres de temps en temps, mais il n'est pas pratiquement et activement le leader du mouvement kurde. Mais c'est plutôt une représentation idéale qui s'est faite dans la société. Il représente un peu, il personnalise la lutte du mouvement kurde, une certaine option sur le féminisme, une certaine mentalité sur l'écologie, sur le pacifisme. Et c'est vraiment plutôt une figure idéologique et quelqu'un qui inspire les gens plus qu'un leader. Et il y a plutôt ce respect qui est dû à cette personne-là, mais pas trop en fait, ce côté dirigeant. Et les gens font plutôt référence que bon fait référence à Karl Marx dans le mouvement communiste.
Encore une question un petit peu générale, et puis ensuite, si tu es d'accord, nous entrerons plus dans la commune internationaliste.